André Glades, pseudonyme de Nancy Marie Vuille, Résistance, chapitre 3. Ce ne fut qu'au dernier jour de septembre, quand Villard, à peu près désert, s'immergea dans une mer de brouillard sans fin, que M. de Reuil fit l'effort de secouer son apathie et de décider le départ. Il n'emmena point Christine en Irlande, mais à Paris, son séjour préféré depuis sa majorité. Ce changement de programme n'alla pas sans une certaine résistance de la part de la jeune femme. Mais chaque fois qu'elle le pressait de tenir sa promesse, il lui avait répondu qu'il ne serait pas prudent de se présenter chez son aïeul sans l'avertir et qu'il fallait d'abord en écrire à sa mère. L'été se passa et il n'écrivit point. C'était trop exigé de lui. À quoi bon se torturer l'esprit et peiner sur de longues pages, car sa lettre ne pouvait qu'être longue, quand il était tellement plus simple d'envoyer le capitaine Brown, un sien ami, en éclaireur. Brown sonderait les dispositions de la famille à leur égard et la préparerait à leur visite. Brown arrangerait tout. Brown irait à Belfast en automne, et avant de partir, il installerait les jeunes gens à Paris. C'était un précieux ami que Brown. Lionel ne parlait de lui qu'avec toutes sortes d'éloges. Le capitaine devait tenir la principale place dans sa vie. Il devait être son cerveau et sa volonté, la tête qui animait ce corps paresseux. Christine appréhendait et souhaitait le moment de le rencontrer, tout en se demandant avec anxiété comment elle s'entendrait avec lui. Lionel, de son côté, se préoccupait de l'impression que ferait sa maîtresse sur son ami. « Je suis curieux de savoir comment vous plairez au capitaine, » disait-il. « Vous n'avez pas le genre de beauté qu'il aime, c'est certain. »« Cela n'a aucune importance, » répondait-elle doucement. Ils arrivèrent à Paris par une brumeuse soirée. Christine fut la première à sauter sur le quai. Une rapide inspection des quelques personnes qui s'y trouvaient la convainquit bientôt que le capitaine n'était pas là pour les recevoir. « Il n'est pas venu, » dit-elle en tournant vers Lionel son visage désappointé. « Il sera parti en voyage, » répondit le jeune homme avec flegme. « Il n'en fait jamais d'autre. » « Oui, Brown est comme cela. Il se déplace avec une facilité surprenante. On ne sait jamais où il sera demain. »« Mais nous, où irons-nous ?» s'écria-t-elle, prête à pleurer. « Vous ne savez pas même dans quelle rue est l'appartement qu'il a choisi. » Lionel parut réfléchir un moment. « Je demanderai à Johnny, » fit-il triomphalement. « Johnny saura où je demeure. » Il héla un fiacre, fit monter Christine, jeta une adresse au cocher. Ce Johnny était un bookmaker que les deux amis honoraient de leur confiance, Lionel ayant une préférence marquée pour les basses compagnies. Mais Christine ne fut renseignée que plus tard. Au moment même, elle n'eut pas le courage de demander et se laissa emmener, lasse, brisée, indifférente à tout. Car malgré la méfiance qu'il lui inspirait, elle était fort désappointée de la défection du capitaine Brown. Elle comptait sur ses bons offices, ses conseils, son influence, son appui au besoin auprès de Lionel. Elle comptait surtout sur lui pour rompre leur pénible solitude à deux et les rattacher en quelque sorte à l'existence des autres. Depuis le jour où elle l'avait trouvé ivre, Christine ressentait pour Lionel une croissante répulsion, malgré que la scène de Villard eût plutôt amené une détente dans leur rapport. En effet, elle s'était abandonnée à un si violent désespoir et à de telles crises de larmes, menaçant de le quitter ou de mourir, plutôt que de continuer la vie commune, que, ébranlée par sa véhémence, il lui avait promis que cela ne se renouvellerait pas, et il avait prié de lui pardonner, tout en lui jurant qu'il ne s'agissait d'ailleurs que d'un simple accident. Dans le besoin de se rassurer, elle accepta ses explications confuses sur la chaleur, la bêtise d'un garçon, une carafe qu'il avait prise pour une autre, et reçut, avec un sourire confiant, l'expression de son repentir. Elle préférait ne pas douter de lui. Mais, quoique ce facile pardon eût rendu quelque sérénité à leur vie, elle eut honte de s'y être prêtée lorsqu'elle en comprit mieux tout l'avilissement. Et pourtant, qu'aurait-elle pu faire? Elle dépendait de lui entièrement, lui devait son abri, sa nourriture, ses vêtements, et cette espèce de protection morale qui la retenait de rouler à des abîmes dont elle commençait à soupçonner l'horreur. Elle n'osait pas l'irriter outre mesure, car s'il la renvoyait, où aller? Après un si long trajet dans des rues dont elle n'eut pas non plus la curiosité de s'informer, le fiacre s'arrêta devant une maison d'apparence faubourienne. Lionel descendit seul et revint quelques minutes après avec une nouvelle adresse qu'il donna au cocher. « Je le savais bien, » dit-il à Christine en reprenant sa place à côté d'elle. « Brown est parti pour l'Amérique, mais il avait laissé notre adresse à Jenny. Brown pense à tout. » Et il se rencogna dans son angle, tandis que la jeune femme regardait, par-dessus la vitre baissée, Paris dans sa tenue de nuit. Des rues, des maisons, des arbres, des lumières défilèrent à ses yeux attentifs. Bientôt, une fraîcheur montant à travers la portière lui fit comprendre qu'il longeait la Seine. Elle se pencha pour mieux voir. Le fleuve lui apparut un instant tout noir, avec les coulées d'or tremblantes des réverbères. Puis la voiture quitta les quais brusquement. Où allait-il? Elle ne le savait pas non plus. Tous les quartiers lui étaient également inconnus et indifférents. Ils descendirent enfin devant une maison de l'avenue Kléber, près du Trocadéro. Lionel entra chez le concierge réclamer les clés. Une femme d'un certain âge, propre, d'une tenue correcte, qui attendait, assise dans la loge, se leva alors et les salua. C'était une bonne engagée par le capitaine. Elle toisa Christine, parut surprise de la trouver si jeune et si timide, puis, recomposant son visage, s'effaça pour la laisser passer. L'appartement au premier, quoique d'une banalité de garni élégant, plut à la jeune femme. Rien ne manquait à son confort, et par la fenêtre ouverte du salon, elle embrassa d'un regard à gauche l'avenue gaie et spacieuse, à droite une bande en écharpe de la place, remplie dans le fond par la masse du Trocadéro. « Cette situation vous plaît ?» demanda Lionel. « Beaucoup, » répondit-elle. Et elle éclata en pleurs passionnés. Souvent, autrefois, lorsque grondée, humiliée, rebutée, elle se réfugiait dans sa chambre pour pleurer, elle avait fait un rêve, un vrai rêve de jeune fille, où l'avenir la dédommageait des tristesses du présent. Combien de fois ne s'était-elle pas imaginé cette scène? Par une soirée d'automne, elle préférait l'automne, après la course en voiture à travers des rues inconnues, elle entrait dans l'appartement neuf, aménagé pour elle au bras d'un inconnu. L'inconnu dont la personnalité restait dans l'ombre, mais qui était grand, fort, loyal et bon. C'était le mari qu'il aimerait un jour. Et cela se passait n'importe où dans quelque grande ville. À Paris peut-être, car d'instinct elle détestait la province, ses étroitesses. Elle avait la surprise du nid neuf, la joie reconnaissante du chez-elle. Plus tard, son inconnu avait pris corps. Elle avait aimé Lionel. Et la vision changeant de nouveau, elle rêvait d'un pays étranger où tout se parait de mystère. son imagination plus que ses souvenirs, lui avait dépeint un manoir très ancien, très vaste, très noble, isolé au milieu de prairies. Les jours gris, le vent soufflait, chargé d'une âpre senteur saline. Les jours calmes, on entendait vibrer au loin la chanson des flots. Au couchant, par les pures soirées, on découvrait la ligne confuse où le ciel rejoint l'océan. Elle voyait, sous les arbres du parc, vieux chênes aux troncs géants, passer une blonde châtelaine qui portait sa fidèle ressemblance, et elle souriait un peu d'orgueil. Puis, à d'autres heures, tout cela s'effaçait devant la joie émue de l'arrivée par un soir doux, voilé de fin brouillard. L'aïeul se tenait au coin de l'âtre avec sa barbe blanche et sa tremblante main levée en signe de bienvenue. La mère s'avançait au-devant des époux, tendres, accueillantes. Mais ce tableau-là s'estompait à peine, fuyait, se brouillait, indécis, dans des vagues teintes de fantasmagorie. Déjà, elle se laissait emmener par Lionel, heureuse de se retrouver seule avec lui. C'était bien une soirée d'automne. Un brouillard mince rampait, insidieux, se coulait le long des maisons, mouillait le trottoir, embuait les becs de gaz dont la flamme luisait toute pâle comme derrière autant d'écrans de ternes. C'était une de ces soirées déjà fraîches où il aurait fait bon allumer une pétillante flambée, tirer les rideaux sur la chambre close et se sentir égoïstement à l'abri du froid, du bruit, de la fatigue, de la pluie fine qui commençait à tomber. C'était bien Lionel. Et pourtant... Chapitre 4. La moitié de l'hiver se passa, monotone, à attendre le capitaine Brown qui ne vint pas. Les jeunes gens vécurent très retirés, sans amis. Quelquefois, Lionel emmenait Christine au bois, l'après-midi ou le soir au théâtre. Mais c'était pour son plaisir à lui. Christine détestait la promenade autour des lacs dans une voiture de louage où il la forçait à exhiber des toilettes tapageuses, bien heureuse encore s'il ne lui prenait pas fantaisie de conduire lui-même. Alors, en bon anglais insoucieux du danger, il choisissait des chevaux fougueux qu'il s'amusait à exciter, lancés à un trot effréné, arrêtés net pour les faire bondir de nouveau, cabrés et écumants. D'où voitures accrochées, passants bousculés, procès-verbaux. La foule s'assemblait autour d'eux. Et Christine, en butte à tous les regards, assise sur le haut siège à côté de Lionel qui se querellait avec les agents, mourait de honte d'entendre les commentaires. Au théâtre, il n'aimait que les pièces grossières. Et quand, secoué d'un rire bruyant, il se retournait en applaudissant vers Christine, elle se demandait comment il avait osé l'amener là. En réalité, bien que la douceur, la grâce, la dignité de la jeune femme exerçassent sur lui quelquefois, inconsciemment, l'ascendant de son caractère, il la traitait comme les filles vulgaires qui sans doute l'avaient précédée, et s'imaginait lui faire une grande faveur en la gardant. Pendant ces matinées dont la paresse de Lionel lui laissait le libre emploi, Christine restait le plus souvent assise à la fenêtre, plongée en de mornes rêveries. Elle n'avait rien à faire. Leur ménage, où ils ne recevaient personne, était peu compliqué. Et la bonne, très entendue, aidée par une femme de journée, suffisait à l'ouvrage. Profondément découragée, la jeune femme se désintéressait de tout. Les lectures l'ennuyaient. Elle était trop absorbée en elle-même pour trouver du plaisir à suivre les aventures de héros fictifs. Les romans tristes accroissaient sa mélancolie. Les romans heureux l'irritaient comme des choses absurdes. Elle n'ouvrait jamais son piano, le bruit incommodant Lionel. Elle ne connaissait personne, n'écrivait à personne. Jamais jeune vie ne fut plus isolée, plus dépourvue de toute joie. Seule, toujours seule, avec un passé sans soleil derrière elle, où elle ne puisait aucune force, devant elle, un avenir de malheur. Elle revenait aussi sans cesse sur les désirs de son enfance qui s'envolaient tous de la maison, et elle en trouvait la réalisation ironique. Elle était hors du nid, libérée. Mais le pauvre oiseau imprudent, ayant mal pris son essor, était retombé, les ailes brisées, et regardait d'en bas, souillé de boue, le bel espace libre et bleu où il ne pourrait plus s'élancer. Quoique son malheur fût son œuvre, Christine éprouvait plus de regrets que de remords. Elle se lamentait sur sa vie gâchée, autant au moins qu'elle se repentait de sa faute. Quand elle se rappelait les circonstances qui l'y avaient poussée, une douloureuse rancune l'animait contre ses parents. Son cœur orgueilleux s'absolvait presque. Mais aussitôt après, sa tendre nature reprenait le dessus et, navrée, elle s'accusait d'ingratitude, recherchait dans ce passé tous les bons souvenirs, s'étonnant qu'ils n'eussent pas pesé davantage, car l'éloignement les parait d'une douceur délicieuse. Elle subissait aussi de constants échecs auprès de Lionel. Dans son désir d'accepter la vie qu'elle s'était faite et d'en tirer le meilleur parti possible, elle n'avait reculé devant aucun effort pour arracher Lionel à sa dégradation. Tâche ardue, où il aurait fallu une autre force, une autre habileté que la sienne, et à laquelle elle succomba bientôt, s'avouant impuissante. D'ailleurs, elle s'y prit très mal. Elle était trop inexpérimentée pour comprendre l'enchaînement fatal des circonstances qui vouaient cet homme à son vice. L'hérédité, l'absence complète de sens moral, les influences multiples de l'ambiance et de l'éducation, et l'atrophie de son intelligence qui lui ôtait la volonté même de la lutte. Elle essaya des supplications, des raisonnements, des larmes, des menaces. Un jour, elle lui arracha des mains une bouteille de liqueur et en vida le contenu par la fenêtre. Il se précipita sur elle avec une imprécation et l'agrippa aux épaules si brutalement qu'elle poussa un cri de douleur. Il la lâcha alors et elle retomba sur le divan, toute sanglotante, si brisée, si désespérée, qu'elle réussit enfin à éveiller une corde sensible dans cette âme inerte. Honteux, il s'approcha d'elle, lui mit une main sur les cheveux et lui dit avec une tristesse non feinte « Ne pleure pas, je suis une brute. Mais c'est inutile, Christine. Ce n'est pas ma faute. Je ne puis pas faire autrement. » « Pas votre faute ? » s'écria-t-elle. « Oh, Lionel !»« Cela vous paraît absurde, mais c'est ainsi pourtant, » répliqua-t-il en s'asseyant à côté d'elle d'un air contrit. « Je voudrais vous expliquer cela. C'est confus dans ma tête. Enfin, vous comprendrez peut-être, et ne serez pas trop sévère. » « Sévère? Je n'ai le droit de l'être pour personne. » Il continua sans relever l'interruption et en détachant ses phrases par saccades. Quand c'est dans la famille, voyez-vous, on n'y échappe pas. C'est fatal. Je ne sais presque rien de mon père, sinon qu'il est mort à 28 ans d'une chute de cheval au sortir d'un déjeuner de chasse où il s'était abominablement grisé. Ma mère a regretté tous les jours de sa vie de l'avoir épousé. Pourtant, dans sa famille, à elle, c'est encore pis. Mon arrière-grand-père en est mort. J'ai un oncle dans une maison de santé. Et mon grand-père, le père de ma mère, oh celui-là. Mais il est fort, lui. Il supporte. L'alcool le conserve, dirait-on. Il est taillé pour vivre 100 ans. Cela ne lui monte pas à la tête comme à moi, bien que souvent. Il ne s'occupait jamais de moi, de rien, de personne. Et ma mère passait toutes ses journées dans son oratoire à dire des prières. Alors vous comprenez, je m'ennuyais et je restais avec les domestiques, c'était plus gai. D'ailleurs, j'ai toujours fait tout ce que j'ai voulu, de sorte que j'ai pris des habitudes dont je ne puis plus m'affranchir, car je suis un malade, Christine, un malade incurable. Oh, ne dites pas cela, s'écria-t-elle. Cher Lionel, c'est impossible. Ne guérit-on pas de presque toutes les maladies? Il y a un remède contre cela, la volonté. Et dans un grand élan de compassion, où elle vainquit toutes ses répugnances, toutes ses rancunes, elle se laissa glisser à genoux à côté de lui, l'entoura de ses bras. Ce serait trop affreux. C'est impossible. Je vous guérirai, moi, ayez confiance. Est-ce qu'on fait ce qu'on ne veut pas? Je serai votre volonté. Je vous sauverai malgré vous. Elle se redressa un peu, lui noua les bras autour des épaules. J'ai manqué de patience, pardonnez-moi. Je ne comprenais pas que vous étiez malade et qu'il faut vous soigner. Je serai plus indulgente et meilleure. Mais vous n'avez pas le droit de vous abandonner ainsi. Vous n'êtes plus libre. Songez à vos responsabilités. Oh, songez-y. Elle s'exaltait, elle pleurait, elle resserrait sa souple étreinte, comme pour le protéger, le garder. La femme naissait en elle à l'heure de la pitié, courageuse, consolante et tendre. Peine inutile. Les beaux traits détendus de Lionel n'exprimaient déjà plus d'autre émotion que celle d'un léger ennui. Il voulait bien être plaint, non exhorté. L'idée qu'on pouvait penser à le régénérer l'épouvantait. Quand la jeune femme, toute frémissante, releva vers lui ses yeux humides et confiants, elle eut le sentiment subit de la vanité de ses efforts. Vous êtes une bonne fille, Christine, lui dit-il pourtant. Je ne voudrais pas vous rendre malheureuse, mais... Son regard erra au plafond, puis sur le tapis, mesura les parois de la chambre. Et il conclut, désespérant sans doute de trouver l'inspiration qu'il cherchait, il faut attendre Brown, il arrangera tout. Alors, découragée, elle n'éprouva plus que la honte de s'être abaissée à le prier ainsi. Un jour enfin, comme Christine commençait à douter de la réalité de l'existence de Brown, il apparut. Ce fut un matin de bonne heure. Elle se trouva en présence d'un gros homme blond, à la face apoplectique, vêtu d'un costume de voyage excentrique, qui demanda à voir Monsieur de Reuil. Tout de suite, la jeune femme le devina, l'invita à entrer au salon. Il dort, répondit-elle en introduisant son hôte. Ah, fit Brown. Ils se contemplèrent un instant, tous les deux en silence, étonnés et déçus. Elle le regardait, plantée sur ses fortes jambes courtes, l'œil clignotant, sa calvitie luisant à travers ses cheveux rougeâtres collés au crâne, ses larges mains formant des bourrelets de chair au ras des manches de son affreux veston, d'une surprenante vulgarité d'allure. Et il la détaillait aussi, sans gêne, de la tête aux pieds, droite dans son peignoir bleu du matin, ses nattes déroulées dans le dos. Si bien qu'elle ne savait plus si elle devait s'indigner ou rire de cette inspection. « Oh, dit-il enfin, je suppose que c'est vous. Dois-je prévenir Monsieur de Reuil ?» demanda-t-elle. « Merci, c'est inutile, il ne se dérangerait pas. » Toutefois, il ne s'en allait pas et restait à examiner la chambre et le mobilier de l'air tranquille de quelqu'un qui prend possession. La jeune femme se souvint tout à coup qu'il venait probablement de loin et n'avait peut-être pas déjeuné. « Puis-je vous faire préparer à déjeuner ?» proposa-t-elle, Vous avez sans doute voyagé toute la nuit. Merci, madame, répondit-il. J'accepte volontiers, mais pas de thé, s'il vous plaît. Un grog, si vous avez du whisky. Elle sortit, donna des ordres, et le capitaine s'attablait bientôt comme chez lui, dévorait son beefsteak, ses trois œufs, consommait la provision de pain et de fromage, vidait aux trois quarts le carafon de whisky, puis se levait, tout souriant, plus rouge que jamais, et partait en disant qu'il reviendrait à 2 heures. Et dès lors, il fut le parasite de la maison. Si Christine avait attendu quelque réconfort de la présence du capitaine, son illusion fut de courte durée. Tout d'abord, elle s'appliqua de son mieux à vivre en bonne harmonie avec lui, mais il lui déplut chaque jour davantage. Elle ne tarda pas à se convaincre qu'il exerçait la pire des influences et cherchait à annuler le très faible ascendant qu'elle avait pris sur Lionel. Ce fut une lutte de quelques semaines, d'où elle se retira bientôt, découragée. Les deux hommes passaient leur journée à boire ensemble. Mais les effets de l'ivresse étaient, chez eux, très différents. Tandis que Lionel devenait sombre, nerveux, irritable, prêt à s'élancer, furieux, sans savoir contre qui ni pourquoi, le capitaine restait de sang-froid. Le flamboiement progressif de sa face donnait seul la mesure de l'alcool absorbé. Il s'égayait d'une gaieté cynique et mauvaise, crachait en riant sur tout le genre humain, criait haut son mépris des femmes. Pourtant, Christine n'eut pas précisément à se plaindre d'hostilités ouvertes. Pour lui, elle n'était qu'un incident dans la vie de son ami. Et du moment où elle ne se mêla plus de rien, il trouva commode de l'ignorer. D'autant plus que, le cœur soulevé du dégoût, elle s'enfuyait à son approche, ne lui adressait jamais la parole. Chaque jour en commun avec ces deux êtres la marquait d'une tare plus profonde. Elle s'effrayait, avec quel désespoir, d'être entraînée si bas qu'il ne lui serait bientôt plus possible de se relever. Dans le naufrage de toutes ses espérances, elle n'en avait conservé qu'une seule, à laquelle elle se rattachait encore de toute sa force, avec la crainte grandissante de la voir sombrer à son tour. Celle d'un mariage qui, scellant son malheur par l'irrévocable, rendrait un peu d'honorabilité à sa vie. Car elle ne pouvait prendre son parti de sa déchéance sociale. En effet, son âme, son cœur, sa fière nature étaient restés les mêmes. Elle se sentait aussi digne de sympathie que jamais, davantage peut-être, depuis qu'elle expiait si douloureusement la faute dont le poids ne retombait que sur sa propre tête. Et elle se révoltait, dans son ignorance du monde, contre l'injustice ou l'indifférence générale. Il surgissait sans cesse de menus incidents qui blessaient sa sensibilité exacerbée et la plongeaient dans de profonds abattements. Ainsi, elle rencontra un jour dans la rue Madame Arden qui détourna la tête en feignant de ne pas la voir. Christine, qui s'avançait sans méfiance, recula, comme frappée au cœur. Cette conduite cruelle et sage d'une personne qu'on disait bonne lui montra ce qu'elle pouvait espérer des autres. Sa domestique même la condamnait. C'était une femme d'une condition un peu supérieure à celle des servantes ordinaires, qui travaillait pour arrondir la dot de sa fille et lui faciliter un bon mariage. L'appât du salaire élevé la retenait seule dans ce ménage irrégulier. Active, probe, entendue, n'ouvrant la bouche que pour son service, elle exécutait les ordres avec fidélité et donnait scrupuleusement au maître qu'elle méprisait l'équivalent de leur argent. Elle pouvait passer des heures à soigner Christine souffrante sans desserrer les lèvres. Celle-ci désireuse de se la concilier, lui offrit d'inviter sa fille le dimanche. Mais la bonne remercia froidement et ne profita jamais de la permission. Christine comprit qu'elle ne voulait pas amener son enfant dans leur maison. Chacune de ces humiliations lui semblait impossible à supporter, et pourtant elle ne pouvait que courber la tête, dévorer ses larmes en silence. Un autre jour, elle était sortie seule et remontait à pied l'avenue des Champs-Élysées. Un tiède soleil de fin d'hiver enveloppait les allées d'or pâle. Les troncs nus des marronniers dessinaient de hautes colonnades. Des bandes d'enfants parés, joyeux, exubérants, aux clairs minois avides de plaisir, faisaient courir leurs cerceaux de bois, voler leurs balles, tourner leurs cordes, siffler leurs toupies dans les jambes des promeneurs, tandis que les graves bébés, raides dans leurs atours, garnissaient les bancs de pâtés de sable. Christine s'arrêta un instant pour les contempler. Le reflet d'une pensée heureuse transparut sur son pauvre visage émacié. Elle sourit. Mais au même instant, elle vit venir dans une voiture de remise Lionel et le capitaine, en compagnie d'une jeune fille brune, une jeune fille du monde évidemment, et d'un vieux monsieur inconnu qui semblait la chaperonner. Abasourdie, elle s'avança de quelques pas. Une palpitation l'étouffait. Qu'allait-il arriver? Ce fut tout simple. La voiture passa, la frôlant presque, sans que les deux hommes eussent l'air de la reconnaître. Seule la jeune étrangère, vaguement étonnée, dévisagea cette femme pâle qui fixait sur eux des yeux hagards et restait comme changée en pierre au bord du trottoir. Quelqu'un la poussa. Elle tressaillit et se remit en marche d'un mouvement machinal. Elle ne sut pas combien de temps elle marcha pour regagner sa demeure, ni pourquoi elle se retrouva plus tard assise à sa place accoutumée auprès de la fenêtre du salon, que les rayons mourants du soleil emplissaient d'ardents reflets roses. Elle avait la sensation d'un poids qui lui serait tombé sur le front et qui, en la meurtrissant, l'étourdissait un peu, car elle ne parvenait pas à coordonner ses pensées. Être désavouée par eux, elle éclatait de temps en temps d'un petit rire énervé. Lorsque les deux amis rentrèrent, Christine, sans s'inquiéter du capitaine, alla à Lionel, l'interrogea d'une voix vibrante. « Avec qui étiez-vous quand je vous ai rencontré ?» Il répondit, trop surpris par la question directe pour essayer des faux-semblants, « Avec Miss Arabella Grant et son père, des amis de ma famille qui sont ici pour quelques jours. Ma mère désire... » Son regard chercha celui de Brown et, l'ayant trouvé encourageant, il reprit « Ma mère désire que je sois polie avec eux. » « Pourquoi ne m'avez-vous pas reconnu ?» Il eut l'air étonné et pourtant le tact ou la pitié de mentir. « Mais je ne vous ai pas vue ?»